En 2023, la Fondation Maison des Sciences de l'Homme fête ses 60 ans. Dans ce cadre, un colloque international autour de l'œuvre de Immanuel Wallerstein et sur son impact, intitulé « Capitalisme, anticapitalisme et sciences sociales engagées à l'échelle globale », a eu lieu les 11 et 12 septembre 2023. La table ronde numéro 2 du lundi 11 septembre après-midi s'intitule « Gauche mondiale et mouvement antisystémique ».
Et maintenant, nous allons passer la parole à Françoise Vergès, qui a publié plusieurs essais sur des thèmes comme le féminisme, la décolonie de l'esclavage, la décolonisation, et de très nombreux travaux et décrits sur les liens entre le colonialisme, la race, le genre, le capitalisme, l'impérialisme, le désastre climatique, et quelques questions connexes, notamment la question de l'islamophobie dans le contexte français. Quand je dis connexe, c'était évidemment... bon. Et donc, effectivement, Françoise Vergès insiste sur l'histoire coloniale passée qui reste un présent. Je pense que c'est une très belle définition. En mai 2018, elle a participé à la conférence internationale Bandung du Nord avec Angela Davis, notamment pour questionner la mémoire coloniale et pour resituer justement la question du féminisme et de la colonisation dans les problèmes majeurs de la situation actuelle.
Françoise Vergès, le post-capitalisme sera féministe et antiraciste.
Merci pour cette introduction. Merci à Catherine, à Sarah Hind et à toutes les personnes dont le travail est absolument invisible, mais sans qui ce colloque n'aurait pas lieu. Avant de commencer, je voudrais dire juste un petit mot sur la démographie, parce qu'on en entend parler de ce matin. Et dans la démographie, c'est-à-dire dans la question quand même de reproduction, il y a la question des femmes et il y a la question des programmes de contrôle des naissances qui sont des programmes totalement impérialistes et racistes, juste pour qu'on n'utilise pas le terme démographie de manière comme si on parlait de choses neutres. Mon hommage à Immanuel Wallerstein ne sera pas une analyse de son œuvre ou une mise en conversation de sa théorie, ni de sa réception dans le monde universitaire. Je n'ai aucune compétence sur ces sujets. Par contre, c'est mon hommage à un homme qui n'a cessé d'étudier les formes d'oppression et d'exploitation et a généreusement partagé tout au long de sa vie ses remarques et ses analyses. Et nous, militantes, et nous a encouragés, comme le rappelait Catherine Wallerstein ce matin, à changer ce monde, à mettre fin à ce monde, et non pas de changer le monde, mais celui-là. En affirmant que dès ses origines, le capitalisme fut une économie monde et d'État-nation, Immanuel Wallerstein nous permit d'échapper à l'histoire strictement nationale, notamment de l'esclavage et du colonialisme, et même à la nationalisation de théories émancipatrices. Quand il écrivit en 1988, je cite, « L'économie monde capitaliste est un système reposant sur une perpétuelle accumulation du capital. La marchandise de tout ce qui existe est l'un des principaux mécanismes qui rendent cela possible. » Fin de la citation. Il rejoignait des historiennes et des théoriciens de l'esclavage colonial qui avait démontré que ce système faisait de l'être humain un capital, du ventre de la femme esclavagisée un capital, de l'enfant à naître un capital, utilisé même comme collatéral à un emprunt ou déjà vendu ou loué avant même sa naissance. La perpétuelle accumulation du capital éclairait la logique de colonisation aussi du capitalisme, à l'extension infinie, l'appropriation de terres, de mers, d'espaces, de corps à exploiter, à occuper, de plantes et d'animaux. Cette remarque permet aussi de tracer les liens entre esclavage, race et capitalisme, comme le fit par exemple Eric Williams. C'est à partir de ces remarques que j'ai choisi ici d'aborder un élément, un aspect de cette question. C'est la fabrication par le capitalisme racial d'un monde irrespirable et inhabitable pour des milliards de personnes, particulièrement dans le sud global. L'irrespirable, l'inhabitable sont les conséquences d'un capitalisme racial, et ses conséquences sont considérablement accentuées aujourd'hui par le désastre climatique, par les conséquences à long terme du colonialisme, dont on a vu encore, par exemple, les inondations au Pakistan. On a vu que leur gravité avait été accentuée par des choses du passé du colonialisme anglais au Pakistan, ou par exemple des méga-incendies à Maui récemment, dont on sait que c'était aussi des conséquences de la colonisation de cette île de l'archipel d'Hawaï. Les guerres impérialistes, notamment par exemple dont on peut voir la manière dont elles polluent, hein, derrière elles laissent des pollutions, des contaminations. On peut donner les exemples des maladies respiratoires aujourd'hui en Irak, par exemple. L'économie d'extraction, de dépossession et de colonisation. Ce qu'on a appelé, ce que certains appellent aussi le plan Thanosène, hein, dont on voit des effets aux Antilles, en Amérique centrale ou en Afrique subsaharienne. Donc la colonisation qu'on ne considère évidemment pas ici exclusivement comme un moment historique, mais comme une structure indispensable avec cette extension infinie des domaines de marchandisation et d'appropriation. Et ici, puisque je parle de monde irrespirable et inhabitable, je parlerai de l'air et de l'eau, des choses vitales, indispensables à la vie même et à faire que l'on puisse habiter cette terre. Et ce monde irrespirable et inhabitable que des millions de personnes fuient et qu'on les appelle migrants et migrantes. Mes remarques sont aussi redevables à l'histoire de la suprématie blanche, de l'invention de la blanchité. Je pense aux travaux de Nell Irvin Planter ou de Jean-Frédéric Straub et Sylvia Sebastiani, mais aussi aux origines coloniales de l'idée même de l'Occident et au XXe siècle de l'idée de l'Union européenne qui s'est fondée dès ses origines sur l'idée que l'Afrique devait rester là, sous la main de l'Europe, enfin produire des richesses. Donc évidemment, et puis ces écrits qui montrent le lien entre colonialisme, race, genre et le désastre climatique. On peut penser à Malcolm Ferdinand, mais à d'autres aussi. Et évidemment, et des glissements au niveau mondial, dont il a été beaucoup question déjà aujourd'hui. Moi, je viens de l'océan Indien, alors évidemment, on n'a pas du tout la même carte du monde quand on vient de là-bas. Le paradigme atlantique n'existe pas par là. On pense dès le départ, dès le moment de l'océan Indien, s'il y a quelque chose qui s'appelait ainsi déjà, il y avait des liens entre l'Afrique et l'Asie et le monde musulman, et qui aujourd'hui évidemment change, il y a des glissements, mais qui s'est constitué pas nécessairement à partir de l'Europe. Donc des choses évidemment aussi qui sont importantes. Pour la définition de la race, je vais reprendre ici la définition de Ruth Wilson Gilmore, qui est, et je la cite, « la fabrication de vulnérabilités différenciées des groupes à une mort prématurée dans des géographies politiques distinctes mais densément connectées ». Elle parle de technologie d'antiracialité, autrement dit, et je cite, « la vie collective de l'humanité est séparée puis reconnectée de manière à alimenter la production de capital et de richesses ». Quand je vais parler, dans le temps qui nous est imparti, je suis évidemment tout à fait consciente de la multiplicité des situations et que désastre, inégalité, injustice ne sont pas vécus de la même manière d'une société à l'autre et à l'intérieur même d'une même société. Par exemple, que ce soit sur le continent africain, asiatique, américain ou européen, dans le Pacifique ou l'océan Indien. Évidemment, les inondations, les méga-feux, l'impossibilité de l'accès à l'eau, à l'air pur ne sont absolument pas même vécus de la même manière. Et pour reprendre de nouveau des remarques de ce matin. Ici même à Paris, les différences sont énormes entre la partie ouest et la partie est de la capitale, comme on le sait. Et on sait que le 93 est le département le plus pollué en France. Je dis bien en France, hein, pas la France. Bon. Donc là, je reprends mon insertion dans mon titre, que le post-capitalisme sera post-raciste et féministe, repose sur l'analyse des productions racialisées et genrées, des vulnérabilités à une mort prématurée. Alors, s'il faut clarifier de quel féminisme il s'agit, ce n'est ni le fémonationalisme, ni le fémo-impérialisme, ni les féminismes étatiques, mais un féminisme radicalement antiraciste, anticolonial, antipatriarcal et anticapitaliste, évidemment, qui s'ancre dans des situations différentes. Il n'y a pas une seule manière de l'être. Et le post-racisme n'est pas la politique de diversité que des institutions et des États mettent en place aujourd'hui pour pacifier les révoltes, mais le démantèlement profond de structures. Et aujourd'hui, je peux penser, puisque nous sommes en France, à ce qui s'est passé évidemment des soulèvements après l'assassinat du jeune Nahel, la criminalisation des jeunes qui se sont révoltés, cette criminalisation évidemment, et aussi la controverse autour de la baïa. Et là, on peut penser à tous les articles de Fanon sur ayez les femmes et le reste suiva, comment la logique de séparer les femmes des hommes et de viser toujours le corps féminin musulman. Donc ça, c'était pour un peu en introduction. Mon intérêt pour les politiques que j'appelle de suffocation et d'épuisement, c'est-à-dire d'épuisement des terres, d'épuisement de l'eau, d'épuisement de l'air, d'épuisement des corps, repose sur les études qui montrent que le désastre climatique impacte déjà beaucoup plus directement les femmes non blanches, les femmes dans le sud global, les communautés noires, autochtones et racisées et les peuples du sud. Ce qu'a confirmé d'ailleurs la pandémie du Covid-19, c'est dans ces communautés vulnérabilisées par le racisme et le sexisme d'État, que le taux de mort prématurée a été le plus élevé. On sait qu'en France, c'était dans le 93 que le taux de mortalité est le plus élevé, et puis évidemment aux États-Unis et ailleurs, au Brésil ou ailleurs. Ce que je voudrais montrer ici, c'est comment une politique des besoins vitaux, que la révolution même digitale, scientifique et technologique ne change pas. Si je n'ai pas d'air, si je n'ai pas d'eau, je meurs. Je veux dire, j'ai beau avoir un smartphone, ça n'y changera pas grand-chose. Et qu'on peut aller en Mars et dans la Lune, mais finalement, s'il n'y a pas accès à l'eau et à l'air pur, on ne va pas on mourir. Donc, c'est très un peu concret dont je vais parler. C'est une politique pour la libération de toutes et de tous au niveau global. Les études ont montré, je l'ai dit, les liens entre économie d'extraction, épuisement, entre colonialisme, race, capitalisme, impérialisme et la respiration. Je voudrais prendre déjà comme premier exemple le masque de fer que les propriétaires d'esclaves imposaient à l'esclavagisé et qu'ils faisaient placer sur la bouche de l'esclave pour l'empêcher à la fois de manger mais aussi de respirer. Comme l'a remarqué l'artiste et écrivaine Grada Quilomba du Brésil, il s'agissait de faire taire et donc aussi de respirer, puisque parler c'est respirer. Pour la situation coloniale post-esclavagiste, Frantz Fanon a décrit cet empêchement de la respiration en ces termes, et je le cite, « C'est le pays global, son histoire, sa pulsation quotidienne qui sont contestées, défigurées, dans l'espoir d'un définitif anéantissement. Dans ces conditions, la respiration de l'individu est une respiration observée, occupée. » Les mots « I can breathe » ou en français « j'étouffe » prononcé en 2014 par Eric Garner à New York, en 2016 par Adama Traoré à Beaumont-sur-Oise, en 2020 par George Floyd à Minneapolis et Cédric Chouviat à Paris, appartiennent à cette histoire. En devenant un cri de ralliement planétaire contre les violences policières, ils ont mis en lumière la nécessité par l'État d'étouffer jusqu'à la mort la voix de personnes fabriquées comme tuables. Mais ces mots mettent également en lumière les politiques d'étouffement et de suffocation du capitalisme, la violence systématique et structurelle qui prive des peuples du droit de respirer, mais aussi tout un monde non humain. Selon des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé en 2020, la pollution de l'air est devenue la cause la plus fréquente de décès chaque année au niveau global. La quasi-totalité de la population globale, c'est-à-dire 99%, est exposée à des niveaux de pollution atmosphérique qui l'exposent à un risque accru de maladies, tels que les cardiopathies, les accidents vasculaires cérébraux, les bronchopneumopathies chroniques, le cancer et la pneumonie. Cette pollution atmosphérique est directement à l'origine de millions de décès prématurés chaque année, principalement en raison de l'augmentation de la mortalité due aussi à des conditions de vie et de travail dans les communautés racisées, à l'accès plus difficile aux services de santé. Dans les pays du sud global, de plus en plus de bébés naissent avec des maladies respiratoires, les rendant plus vulnérables à une mort prématurée pendant l'enfance ou à l'âge adulte. De plus en plus d'enfants, toujours dans le sud global, meurent d'asthme, qui est une maladie très facile à soigner. Cette pollution de l'air va avec une difficulté grandissante d'accès à l'eau, notamment potable, à cause de la privatisation et de sa consommation aussi par l'industrie minière, nucléaire et de l'agrobusiness. Donc ces deux éléments vitaux pour la vie humaine et non humaine, l'eau et l'air sont de plus en plus à la fois privatisés, appropriés ou quand ils sont accessibles aux populations du sud global ou aux populations racisées, pollués et contaminés. Dans Respire, dans l'essai Respire, Mireille Massé parle, et je cite, d'une inégale répartition de l'air, d'une inégale exposition selon les classes sociales à l'irrespirable et aux milieux toxiques. Elle cite Naomi Klein, qui décrit le dérèglement climatique comme une traduction atmosphérique de la lutte des classes. La guerre crée l'atmosphère, écrit Kali Rabai, en décrivant comment des agents non vivants, non humains, nuisent aux vies humaines et non humaines. Elle parle de ce que les armées laissent derrière elles. en polluant, en contaminant les terres, l'eau, l'air et les corps. On peut penser aussi au fait que ces conséquences sont très longues et très durables, comme on voit avec l'agent orange au Vietnam, au Laos et au Cambodge, qui est des années plus tard. Elle montre comment ce qu'elle appelle les écologies de guerre affectent profondément l'utérus des femmes dont les bébés naissent avec des malformations. La vie des femmes noires, arabes, racisées, est directement menacée par le manque d'eau et d'air, la pauvreté, le manque de nourriture et l'absence de soins prénataux et postnataux. Le capitalisme racial crée donc un état de guerre permanente, on pourrait dire, dont les espaces ont été et sont toujours la plantation. Ce n'est pas simplement d'hier, on peut penser jusqu'à aujourd'hui à la plantation. Les scientifiques disent que les plantations de bananes, par exemple, sont extraordinairement silencieuses parce qu'à cause des pesticides, des insecticides, il n'y a plus un insecte, il n'y a plus un oiseau dans ces plantations. On peut penser aussi à l'empoisonnement des sols de la Guadeloupe et de la Martinique par le chlordécone, un pesticide qui avait été interdit en France, mais qui a été prolongé dans cet espace dit postcolonial. Et aujourd'hui, c'est un des taux de cancer de prostate les plus élevés du monde. On peut penser à la mine, la continuation, ou comment en Colombie et ailleurs, des populations, notamment autochtones, vivent à côté de mines qui les mènent à une mort prématurée. Ou évidemment, les mines d'uranium au Niger, par l'industrie aussi française. On peut penser à l'usine dès le départ. On peut relire évidemment Engels sur les usines, mais même des tas d'autres usines qui ont toujours été des lieux qui visaient les poumons et les respirations. Les empoisonnements par le mercure, on pourrait citer juste pour le XXe siècle Minimata et Bhopal. On peut, je l'ai parlé de l'agent orange. On se souvient que cette campagne s'appelait Ranch Hand, c'est-à-dire l'ouvrier agricole. 80 millions de litres de défoulant déversés, aux marées noires, aux essais nucléaires qui ont duré très très longtemps, notamment dans le Pacifique, et les îles françaises du Pacifique sont aujourd'hui extrêmement contaminées avec des taux de leucémie et de cancer de la moelle extrêmement élevés. Les produits toxiques partout, notamment dans les métiers nécessaires dont Manuel a parlé, et qui sont en général, que ce sont des femmes racisées qui les tiennent. Et donc, je parlais aussi de l'eau, mais la fabrication même du manque d'eau. Aujourd'hui, par exemple, dans une île dite française, Mayotte, où il y a un manque d'eau. Et évidemment, l'État français parle de sécheresse exceptionnelle, mais ne parle pas du fait que la structure même de l'accès à l'eau a été évidemment complètement appropriée par un privé et laissée par l'État, abandonnée par l'État, puisque c'est une île donc postcoloniale. Mais que cette fabrication de manque d'eau, c'est comment de voir, et ça c'est ce que peut-être Emmanuel Wallerstein nous a appris, de voir comment les choses s'entrecroisent et s'interactent. Elle est mêlée à une politique massive anti-migrants par l'État français, qui a envoyé donc des milliers de policiers armés pour chasser ce qu'ils appellent des migrants, qui sont en fait des Comoriens, c'est-à-dire des personnes dont Mayotte étant une des îles de l'archipel des Comores, mais aussi à la campagne de stérilisation massive des femmes qui est proposée par l'hôpital public là-bas. Toutes les femmes qui se présenteraient à l'hôpital public seraient aujourd'hui, on leur propose d'être stérilisées. Je n'oublie pas évidemment la Palestine où l'eau est détournée, appropriée par les colons, les oliviers sont arrachés, les ordures déversées sur les quartiers palestiniens et l'air est pollué. Face à cette guerre, on peut parler d'une lutte contre l'asphyxie et pour la vie. Une lutte pour des besoins vitaux dont la nécessité est niée par ce capitalisme. Donc, pour reprendre la question, qu'est-ce qu'on va faire? Que faire? Face à cette guerre, on peut parler d'une lutte, donc, je disais, pour la vie. Alors là, je vais citer quelques exemples. L'activiste sud-africain Joël Ocho Omotayo raconte que les habitants des bidonvilles de Durban, en Afrique du Sud, qui parlent isiZulu, pratiquent ce qui... Alors, excusez ma prononciation, je ne parle pas le isiZulu, ubukodia, c'est-à-dire tout. En fait, ça veut dire tout dans la langue, et qui est, je cite, « la clé de la médiation face à la tension liée à l'impossibilité de respirer dans une périphérie urbaine polluée par l'industrie ». Dans « Living Politics in South Africa Urban Shackland », l'anthropologue Kerry-Ann Chance écrit, et je cite, « que l'expectoration, cette toux, donc au coda, consiste à débarrasser ses poumons de la pollution pour respirer ». Que ce soit pour chanter, pour prier, pour parler, dans un espace collectif. L'ubukodla facilite donc la connexion et la solidarité lors des événements collectifs en permettant aux résidents assiégés dans des périphéries urbaines de changer momentanément leur corps en expulsant les polluants, alors même qu'ils changent d'air et se relient les uns aux autres par le son. Au-delà de la dégradation, il s'agit donc de s'intéresser aux luttes et aux pratiques respiratoires dans des événements pollués. Pour Dharmik Arsenijevitch, de nouveau, vous m'excuserez ma prononciation, Arsenijevitch, le poumon prolétarien doit devenir dans un objet d'étude dans l'anticapitalisme. Il cite ici le ramasseur de métaux dont les poumons sont brûlés par les restes de chlore dans les tuyaux de la grande centrale électrique de Bosnie-Herzégovine. Et, dit-il, je cite, « qui succombe à ses blessures et meurt. Sa mort est le bilan de la logique extractive du capitalisme prédateur en Bosnie-Herzégovine aujourd'hui. » Les luttes contre la fabrication d'un monde irrespirable et inhabitable sont donc d'ordre mémoriel, d'écriture de récits autour des poumons et de la respiration, mais aussi de pratiques et théories. Je citerai ici Sbu Zikode, le cofondateur en 2005 du mouvement sud-africain des habitants des bidonvilles et de l'Université des pauvres, qui en 2009 expliquait comment il était passé d'un entraînement à tuer comme fondement de la libération à une conception de la politique qui consiste, je cite, à humaniser le monde et à vivre le communisme. Il appelle ça « living communism », qui peut être donc le communisme vivant ou vivre le communisme, hein, une pratique. Alors je le cite sur cette politique. « Une politique vivante n'est pas une politique qui nécessite une intervention de la part d'une personne ou d'un groupe, n'est pas une politique qui nécessite une éducation formelle. Une politique vivante est une politique qui est facile à comprendre parce qu'elle découle de nos vies quotidiennes et de nos expériences. » C'est une politique que toute personne ordinaire peut comprendre. C'est une politique qui sait que nous n'avons pas d'eau, mais qu'en fait, nous méritons tous de l'eau. C'est une politique qui sait que tout le monde doit avoir de l'électricité parce qu'elle est nécessaire à notre vie quotidienne. Tout le monde, ajoute-t-il, peut comprendre ce type d'exigence et tout le monde doit reconnaître que ces demandes sont légitimes. Un communisme vivant, dit-il, est à la fois, et je cite, une idée vivante et une pratique vivante. L'idée et l'égalité totale et réelle de tous et toutes sans exception. La pratique, c'est qu'une communauté doit posséder collectivement ou prendre de force la propriété collective des ressources naturelles, en particulier l'eau, la terre et la nourriture. Chaque communauté a droit à ses ressources. C'est aussi ce que dit Christine Ross quand elle parle de la vraie guerre du capital, c'est celle qu'il mène contre la subsistance. Et dès lors, d'imaginer les formes de communisation, de comment communiser l'air, l'eau, la terre, pratiquer un communisme vivant. Ce sont aujourd'hui des formes que se sont appropriées énormément de mouvements sociaux dans le monde, contre la marchandisation de tout ce qui existe, que dénonçait Emmanuel Wallerstein en 1988. De reprendre à partir de ses besoins vitaux, de se demander qui nettoie le monde et comment cela pourra être changé pour que les femmes, les millions de femmes qui exercent ce travail et sans qui aucune société ne fonctionnerait, parce qu'on ne pourrait pas aller à l'école, à l'université, à l'hôpital, à la boutique, ou n'importe où, on n'irait nulle part parce qu'il y aurait les ordures qui s'accumuleraient. Et comment à partir de ça, de cette question donc nécessaire et vitale, mais constamment niée, sous-payée, surexploitée, repenser justement cette décolonisation du monde, cette transformation, la fin de ce monde. Mais c'est aussi penser, comme le proposent les féministes d'Amérique centrale, ce qu'elles appellent, elles, la décolonisation. Et là, on pourrait penser non pas à la question, à un débat sur est-ce que le décolonial, pas décolonial, mais à ce que Frantz Fanon disait, que la décolonisation est un processus historique et que nous sommes dans ce processus, et non pas au début ou la fin de quelque chose. Mais il n'y aura pas donc de démantèlement du système sans dépatriarcalisation, sans la fin du patriarcat, sans la fin effectivement de cette domination dont on voit aujourd'hui la guerre se mener, qu'elle soit en Inde, aux États-Unis, en France ou ailleurs, une guerre contre les femmes qui se traduit de toutes les manières, en criminalisant, en les affaiblissant, en les précarisant et en faisant effectivement que leurs besoins vitaux ne soient jamais respectés. Merci.
Merci beaucoup, Françoise. Et en fait, je pensais qu'on allait avoir une réflexion sur la liaison entre féminisme et décolonisation, ce qui a été le cas, mais vous avez rajouté en plus l'écologie. Et ça, je trouve que c'est très, très bien parce que ça nous fait avancer dans justement quelles sont les nécessités pour la gauche mondiale aujourd'hui. C'est de relier les trois, c'est-à-dire de relier la question de la libération des femmes, la question de la décolonisation inachevée et la question des contraintes écologiques comme contraintes majeures, ce que l'on voit très mal. Et je le remercie beaucoup de cette intervention.